France Culture, il est 16h. Tout de suite, Science Publique, Michel Alberganti.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous l'avez sans doute noté, depuis le début de la semaine, les émissions de Culture Science ont changé d'horaire et vous pouvez donc écouter Science Publique tous les vendredis entre 16h et 17h. Nous retrouvons aujourd'hui notre émission mensuelle réalisée en partenariat avec le magazine Science et Vie. Comme toujours, vos réflexions et commentaires sont attendus sur notre site au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Bricoler l'ADN à loisir, révolution génétique ou cauchemar éthique? Au cœur de chacune de nos cellules, on trouve une molécule appelée acide désoxyribonucléique, je réussirai à le dire en une seule fois. Autrement dit, simplement l'ADN. C'est là que l'information génétique est inscrite, information qui permet à tous les êtres vivants de se développer et de fonctionner. C'est là que se logent les défauts qui engendrent les maladies génétiques affectant un ou plusieurs chromosomes. On compte environ 6000 de ces maladies, parmi lesquelles la mucoviscidose, la myopathie, la trisomie 21 ou l'immunodéficience innée des enfants-bulles. Depuis une vingtaine d'années, les techniques du génie génétique s'attaquent à la modification des zones déficientes de l'ADN. Aujourd'hui, l'une de ces techniques, baptisée d'un nom difficile à prononcer, CRISPR-Cas9, s'annonce comme une véritable révolution. Elle permet en effet, de façon simple, rapide et économique, de modifier une partie de l'ADN d'une cellule vivante. CRISPR-Cas9 ouvre ainsi de nombreuses portes, thérapeutiques d'abord avec le traitement des maladies génétiques, mais aussi problématiques lorsqu'il s'agit d'améliorer le génome d'êtres vivants et de modifier sa descendance. CRISPR-Cas9 résulte du travail d'une microbiologiste française, Emmanuelle Charpentier, et d'une biochimiste américaine, Jennifer Doudna. Nombre de spécialistes estiment qu'elles sont des candidates sérieuses au prix Nobel. C'est de cette technique révolutionnaire à laquelle le magazine Science et Vie de juin 2016 consacre son dossier, dont nous allons parler aujourd'hui dans Science Publique. Pour cela, nous recevons en direct depuis le studio 1 de la Maison de la Radio, Alain Fischer, médecin, titulaire de la chaire de médecine expérimentale au Collège de France et directeur de l'Institut des maladies génétiques Imagine à l'hôpital Necker Enfants Malades, Pierre Joannet, biologiste de la reproduction et professeur émérite à l'Université Paris-Descartes et membre du comité d'éthique de l'INSERM, Jean-Christophe Pagès est professeur et praticien hospitalier à la faculté de médecine à l'Université François Rabelais de Tours et président du comité scientifique du Haut Conseil des biotechnologies. Nous sommes également avec Caroline Tourbe, chef du service médecine du magazine Science et Vie qui a supervisé le dossier publié dans le numéro 2 janvier 2016 et intitulé « Bricoleurs du vivant pour soigner, créer, optimiser ». Ils ont trouvé leur outil. Alors Caroline Tourbe, justement, pourquoi avoir publié ce dossier maintenant? Il y a une grosse actualité en 2015 sur ce sujet-là, mais qui la découverte étant juste un petit peu quelques années auparavant. Alors qu'est-ce qui vous a décidé?
Alors c'est la façon dont ça s'est passé. C'est vraiment un travail de la rédaction parce que on a entendu parler. On est spécialisé à Sciences et Vie. Chaque journaliste a un peu une spécialité en biologie fondamentale, en médecine, en environnement. Et puis on a commencé à entendre parler tous un peu comme ça. Ça bruissait dans les laboratoires quand on allait voir des chercheurs de cette technique. Avec ce nom imprononçable, cet acronyme CRISPR-Cas9, dont sur laquelle on reviendra, parce qu'en fait ça veut dire quelque chose, hein, ce nom-là. Mais donc, oui. On entendait parler de ça. Et puis quand on a commencé à un peu en parler entre nous, on a rapidement compris qu'il se passait quelque chose d'important. Ça, c'était en 2012-2013. On a fait plusieurs petits papiers. Et puis là, c'est comme si tout d'un coup, on s'est dit il faut apporter à la connaissance de nos lecteurs le fait que c'est quelque chose de très important qui touche de nombreux domaines de la biologie, pas que la médecine. Vous avez beaucoup parlé de la médecine, mais pas que. C'est vrai que ça peut concerner des espèces végétales, ça concerne l'humain, les animaux. C'est
oui,
ça qui est extrêmement intéressant.
En fait.
Voilà,
c'est un outil
qui permet d'aller travailler sur l'ADN de très nombreuses espèces. On a presque tendance à dire toutes les espèces, c'est pas vrai, mais presque toutes en tout cas. Voilà. Et donc c'est extrêmement intéressant. Et puis, même si a priori ça peut faire un peu peur, pour la complexité du sujet, peut-être sur les perspectives que ça peut ouvrir. En fait, quand on plonge dans ce genre de sujet, on en ressort passionné. C'est vraiment quelque chose de passionnant, de très contemporain qui se passe. C'est une construction actuelle, vraiment.
Eh bien, je ne crois pas que nos invités seront d'un avis différent. Alain Fischer, bonjour.
Bonjour.
Comment vous la qualifieriez, vous la décririez déjà, cette technique CRISPR-Cas9, qui, de par son nom, renforce l'aspect à la fois complexe et mystérieux qui peut entourer ce genre de technique?
Je pense que c'est une découverte majeure de la biologie dans la période récente, et c'est devenu déjà, comme cela a été très bien dit, un outil de recherche qui est devenu déjà irremplaçable, dans un très grand nombre de recherches biologiques fondamentales, simplement pour après améliorer et appréhender la connaissance du vivant, quelles que soient les questions dans de très nombreux domaines, du développement, du fonctionnement de tel ou tel type de tissu dans telle ou telle espèce vivante. On peut utiliser ce système pour modifier de façon presque universelle, l'expression d'un gène, de plusieurs gènes, et modifier l'expression, ça veut dire empêcher l'expression, ou au contraire surexprimer un gène, ou moduler son expression. Donc l'éventail des possibilités est gigantesque. Donc c'est un outil majeur de la recherche biologique. Je pense qu'aujourd'hui, l'acquis, c'est ça et rien d'autre. Tout le reste est sous forme de perspective. Les applications médicales, agronomiques, etc. sont potentiellement intéressantes, mais rien n'a été fait à ce jour. Par contre, depuis 3-4 ans, l'utilisation en biologie est acquise et disséminée dans tous les laboratoires de biologie du monde.
Alors, en quelques mots, on parle souvent de l'analogie avec le traitement de texte en disant que cette technique permet de faire du copier-coller avec des segments d'ADN correspondant, par exemple, à des gènes que l'on voudrait supprimer ou que l'on voudrait remplacer.
Oui, le Cas9, dans CRISPR-Cas9, c'est une enzyme, si vous voulez, une paire de ciseaux, si on prend une autre image, qui coupe l'ADN et qui la coupe à un endroit extrêmement précis. Et il se trouve que les ciseaux sont guidés vers l'ADN par un ARN complémentaire de l'ADN, donc un système de reconnaissance fidèle, très facile à fabriquer par ailleurs, qui permet de guider donc ces ciseaux exactement à l'endroit où on veut couper. Et à partir du moment où on a coupé, on peut faire d'autres choses, soit laisser se réparer simplement, si je puis dire, la cassure de l'ADN dans les cellules, et ça va créer une lésion du gène, si on a coupé dans un gène. Et donc, on peut ainsi induire l'inactivation, donc la non-expression du gène, où on peut se débrouiller de telle manière d'introduire une autre séquence, copier-coller, qui pour modifier un gène, etc., etc.
Alors, on va y revenir, parce que rien que de la décrire comme ça, ça paraît à la fois extrêmement improbable d'arriver à un tel résultat. Et vous-même, d'ailleurs, qui êtes un pionnier de la thérapie génique, vous savez à quel point il est difficile d'agir sur l'ADN. Donc, on reviendra et on essaiera de comprendre, d'ailleurs, la différence qu'il y a entre ces différentes techniques. Pierre Joannet, bonjour.
Bonjour.
Alors, quel est votre sentiment, vous? On va faire un premier tour de table sur ce sujet, sur cette technologie. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec Alain Fischer qui trouve qu'elle est absolument révolutionnaire, de certaine façon, il faut dire le mot?
Enfin oui, je suis tout à fait d'accord, en fait, c'est magique.
Oui, c'est pire que révolutionnaire.
Mais non, pourquoi c'est magique? Enfin, il y a plusieurs raisons. C'est parce que ce que décrit Alain Fischer, c'est vrai, mais c'est pas la première fois qu'on est capable d'intervenir sur la molécule d'ADN comme ça. Ce qui est intéressant avec CRISPR-Cas9, c'est que l'action que l'on peut avoir sur la molécule d'ADN est tout à fait ciblée. C'est-à-dire qu'on peut vraiment très précisément viser le gène, ou viser le fragment de la molécule d'ADN que l'on souhaite soit enlever, soit modifier, ou alors rajouter quelque chose. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, enfin, ce qu'il faut dire aussi, je crois, c'est que cette technique, elle n'est pas complètement artificielle. Cette technique, elle a été inspirée de ce qui se passe dans des bactéries. C'est-à-dire que Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna ont analysé la manière dont les bactéries réparaient leur ADN quand elles étaient attaquées par des
virus,
phages
là,
extérieurs qui pouvaient les abîmer. Et donc, tout ce système est en fait un système qui existe dans le vivant, qui existe dans les bactéries. Et simplement, elles ont transposé ce système à d'autres types cellulaires, toutes sortes de types cellulaires. Et c'est ça qui est aussi la deuxième chose intéressante. Troisième chose tout à fait intéressante et un peu magique, c'est la simplicité de la technique et son faible coût. Et c'est ça qui explique que depuis 2012, qui est l'année où elles ont décrit le système,
voilà,
il y a une véritable explosion de publications avec cette technique, parce que maintenant elle est à la portée de tous. on a pu comparer cette technique pour la biologie à ce qu'était la Ford T pour l'automobile. C'est-à-dire que avant la Ford T, on fabriquait des automobiles, mais c'était compliqué, c'était cher, c'était difficile. Et tout d'un coup, avec la Ford T, c'est devenu à la portée de tous. Et là, avec CRISPR-Cas9, ces possibilités d'intervenir sur la structure de l'ADN sont à la portée de tous et il y a de multiples labos. Alors, à la fois, c'est bien, à la fois, c'est inquiétant. Parce que
vous allez faire toute l'émission en une seule réponse. Donc, on vous arrête tout de suite. On va revenir sur l'aspect inquiétant. Jean-Christophe Pagès, bonjour.
Bonjour.
Alors, je résume efficace, simple, économique. On a l'impression d'être dans une publicité pour quelque chose qui est improbable. Est-ce que vous confirmez votre point de vue?
Je vais compléter le tableau. Alors, c'est amusant parce que finalement, chacun contribue. Et Alain n'a pas dit que c'est le système immunologique des bactéries en particulier. C'est un des systèmes. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que les premiers outils de génie génétique, les enzymes de restriction, étaient aussi des systèmes de défense des bactéries. Et donc là, le système CRISPR-Cas9 est un système d'immunité acquise. C'est-à-dire que la bactérie apprend à reconnaître un phage, stocke un élément,
phage, c'est-à-dire c'est
un virus de bactéries. Stocke une information sur ce phage et quand elle est infectée, elle exprime la protéine Cas9 et ce fameux ARN, en fait il y en a deux chez la bactérie, pour venir couper le génome du phage et rendre abortive l'infection. Donc ça c'est le système. Pour le reste, Alain et Monsieur Joannet ont parfaitement décrit le système. Ce que je voudrais dire, malgré tout, donc, comme le dit Alain, c'est une révolution dans la recherche. C'est un outil qui est devenu absolument indispensable pour comprendre la physiologie de pratiquement tous les organismes. En revanche, sur les aspects thérapeutiques, pour lesquels il va falloir non pas inactiver, ce qui est la chose la plus facile, mais changer une séquence, là, il y a des problèmes qui sont les problèmes de vectorisation. C'est-à-dire que l'on a besoin d'apporter la protéine Cas9, l'ARN guide qui va cibler la localisation de la fameuse coupure et un ADN modèle. Et cet ADN modèle, c'est relativement complexe de l'apporter. Et apporter les trois dans une cellule d'un organisme, ça reste quelque chose d'un tout petit peu compliqué.
Alors peut-être
je voulais juste terminer en disant que ces systèmes de coupure ciblée, en fait, ils existent, ils préexistent et il faut savoir qu'il y a deux essais cliniques qui sont déjà en cours avec des systèmes antérieurs. Un pour prévenir une réinfection par le virus du sida dans les cellules hématopoïétiques et un deuxième qui devrait débuter incessamment sous peu aux États-Unis pour réactiver un gène d'hémoglobine fœtale pour les maladies, les thalassémies.
Alors peut-être pour bien comprendre, Alain Fischer, peut-on comparer cette technique avec celle que vous utilisez en thérapie génique, en particulier, c'est ce que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est-à-dire les soins d'enfants bulles, donc privés de système immunitaire à la naissance, et auxquels vous avez réussi à en rendre un par thérapie génique. Alors, est-ce qu'on peut donner une différence pour situer un petit peu?
Donc là, on aborde la potentialité d'utilisation de ce système enzymatique pour traiter les maladies. En l'occurrence, on parle de maladies génétiques, mais pas que, comme il y a été fait allusion à l'instant. Donc, ce qui se fait aujourd'hui et qui a été fait pour plusieurs maladies, pas un très grand nombre, mais pour quelques maladies, des déficits immunitaires, mais aussi pour certaines maladies métaboliques, ça commence à se faire pour les maladies de l'hémoglobine, et pour quelques autres maladies, c'est d'apporter une copie normale du gène muté, on parle de maladie génétique, au sein des cellules déficientes, de telle manière que ce gène s'exprime, donne naissance à la protéine qui corrige la maladie, puisque c'est le défaut de la protéine qui est responsable de la maladie. La grande différence avec le système CRISPR-Cas9, c'est qu'on ajoute quelque chose sans modifier la mutation ou les mutations présentes. Et la copie normale du gène, soit elle est présente en dehors du génome, donc pour certaines situations, ou elle est insérée dans le génome, mais pas au bon endroit. Donc on bricole, alors là c'est vraiment du bricolage de toute première génération si je puis dire, quelque chose qui n'est pas physiologique mais qui a l'avantage au moins dans certaines situations d'apporter un bénéfice au malade. Donc l'intérêt potentiel, j'insiste sur l'adjectif potentiel puisque à ce jour on n'y est pas tout à fait, d'une thérapie génique utilisant ce système, c'est de permettre d'agir de façon plus précise. En fait il y a deux choses que l'on peut faire. Une qui est un peu moins difficile que celle que tu as évoquée. La première chose qu'on peut faire, et probablement, à mon avis, on devrait y arriver, je suis peut-être imprudent, mais dans un délai pas trop lointain, c'est d'inactiver un gène, donc grâce au système CRISPR-Cas9, de couper très précisément dans un gène, de telle manière qu'ensuite il se répare de façon, entre guillemets, pathologique, il devient anormal, et donc il ne s'exprime plus. Si ce gène est lui-même antérieurement, entre guillemets, pathologique et responsable d'une maladie, en l'inactivant, on peut avoir un effet bénéfique. Il reste le problème qui a été, à très juste titre, évoqué à l'instant, qui est celui de vectoriser, d'apporter au sein des cellules et des bonnes, celles qui sont, entre guillemets, malades, le matériel génétique qui va permettre d'avoir le CRISPR-Cas9. Mais ça, c'est Cas9. C'est relativement facile, puis il y a seulement à inactiver. Et puis, il y a une seconde thérapie génique, donc qui peut se comparer en termes d'objectifs à celle qui se fait aujourd'hui concernant le remplacement, l'apport d'une protéine déficiente, qui va impliquer non seulement d'aller couper au bon endroit dans le gène muté, mais ensuite d'obtenir un événement que l'on appelle techniquement de recombinaison homologue, c'est-à-dire de modification, réparation, c'est le traitement de texte, mais de telle manière qu'on enlève une faute d'orthographe et qu'à la place on a le texte exact. Et ça, c'est plus compliqué parce qu'il faut l'obtenir dans un nombre suffisant de cellules et qu'il n'y ait pas d'erreur. Et pas d'erreur, on n'y est probablement pas tout à fait. Et dans suffisamment de cellules, ça dépend des cellules. Il faut que les cellules soient en division, donc c'est un facteur limitant.
Caroline Tour, ce qui est intéressant, ça a été dit, mais peut-être qu'on peut le souligner, que cette invention est ancienne dans ses prémices. C'est-à-dire qu'il y a une vingtaine d'années déjà que les chercheurs ont remarqué cette particularité de l'ADN des bactéries, d'être capable de mémoriser une agression extérieure, et qu'il a fallu donc tout ce temps pour que, peu à peu, cette observation devienne une technique utilisable.
Oui, au tout début, c'est observé par hasard et pas compris, tout simplement. Et puis, c'est comme ça souvent en science.
Alors, on retrouve
puis,
d'ailleurs...
Il y a un moment pour le comprendre, on comprend ce qui s'est passé, on comprend ce que font les bactéries. Et puis ensuite, c'est comme une troisième fois, on revient et on comprend l'intérêt que ça pourrait avoir d'utiliser ce que font les bactéries. Et enfin, dernière phase, on arrive à l'utiliser et à le transférer vers d'autres types de cellules.
Voilà, donc 20 ans pour passer d'une observation étrange qui a surpris les chercheurs.
C'est les années 80 au tout début.
Peut-être plus, même.
Une trentaine d'années. Ouais.
Voilà, et il reste d'ailleurs une trace de cette origine dans le nom également, puisqu'on retrouve le fait que les lettres de ce segment d'ADN se lisent dans les deux sens, c'est bien ça. C'est un palindrome que l'on retrouve donc dans le CRISP. C'est le P de cet acronyme. Alain Fischer, c'est long et en même temps, pour la première fois peut-être, là aussi c'est d'une forme de biomimétisme, on s'inspire de ce que la nature a fait spontanément.
C'est pas la première fois qu'on s'inspire.
Non,
très très souvent, les progrès de la science s'inspirent.
Mais par rapport
et la technologie
à la thérapie
en biologie,
dont vous parliez, oui. c'est ça.
Mais là aussi, même différence. La thérapie génique classique, c'est inspiré de la biologie fondamentale et de, par exemple, dans une certaine partie de la thérapie génique, la biologie d'une classe de virus qu'on appelle les rétrovirus ou d'autres virus. Donc c'est en se fondant sur les connaissances de la biologie. Ce qui ramène toujours à la notion qu'il n'y a pas de progrès sans avancer. D'abord, la recherche fondamentale qui n'a sans aucune prédiction a priori de ce que l'on cherche. Donc, c'est une nouvelle avancée de ce type, mais qui n'est pas spécifique sur le plan de la démarche scientifique, disons.
Caroline Thorne.
Peut-être que pour comprendre, quand on n'est pas du tout biologiste, ce qui peut être pas mal, c'est de revenir à un outil qu'on est quand même nombreux à utiliser tous les jours, qui est le traitement de texte. Mm-hmm. Mettons que si votre ADN est une suite de lettres, un texte Word, jusqu'à présent, quand vous vouliez aller remplacer toutes les lettres R, par exemple, imaginons que jusqu'à présent, il vous fallait programmer, faire quelques lettres de programme, puis aller chercher, c'était plus compliqué, plus long, ça demandait du temps. Et c'est comme si avec CRISPR-Cas9, on avait retrouvé les raccourcis clavier, vous savez, pomme ou contrôle R, contrôle V, voilà. On a trouvé un moyen simple d'aller éditer le génome, c'est-à-dire d'aller, comme vous l'expliquiez très bien, trouver l'écriture corrigée du gène dans l'ADN. Voilà, on a vraiment trouvé un moyen d'aller explorer, chercher. Et c'est pour ça que c'est aussi, quand on parle d'un outil, c'est que ça paraît complètement abstrait, mais c'est vraiment comme un attelage entre une paire de ciseaux, voilà, et qui est guidé avec un petit guide qui va lui permettre de se mettre sur les rails de l'ADN, vraiment sur le rail de l'ADN, et de s'arrêter plusieurs endroits, mais enfin au final, à s'arrêter à l'endroit qu'on avait décidé de chercher. On lui dit, je veux chercher tel groupe de lettres, va me le chercher, je te colle les ciseaux, Et ce petit guide va l'emmener jusqu'à l'endroit de l'ADN et les ciseaux vont couper à cet endroit. C'est très simplifié, mais c'est quand même ça la différence. C'est-à-dire que pour construire des attelages avant qui permettaient de faire ça, c'était très compliqué, ça, c'était cher aussi. Et c'est vrai que M. Joinet le disait très justement, c'est pas cher. Faire CRISPR-Cas9, c'est beaucoup moins cher que ça ne pouvait l'être en termes humains. Pas que sur, je ne parle pas de la technologie, mais en termes humains, c'est voilà, l'investissement. Et...
Pierre Joinet, oui, décrit comme ça, ça paraît... magique, c'est vous qui avez utilisé le terme, d'ailleurs je le reprends comme ça en prenant pas trop de risques. En même temps, est-ce que c'est exactement cela qui se passe dans la réalité? Est-ce que l'on va pouvoir faire?
Écoutez, oui et non, parce que comme l'a très bien dit Alain Fischer, pour le moment on est encore au stade de la recherche. On n'est pas du tout encore au stade des applications. Et la technique est encore améliorable. Tout le temps il y a des publications qui sortent, qui apporte des précisions concernant l'efficacité et la spécificité de la technique.
Ça fait finalement que 3 ans que cette technique est connue.
Oui, c'est un peu important. C'est qu'il y a vraiment un mouvement pour travailler dans ce sens en essayant d'améliorer les performances de la technique. Alors maintenant, par rapport à la comparaison traitement de texte que j'approuve, il y a aussi un problème, c'est que cette technique, elle est tellement puissante qu'elle peut agir sur les cibles que l'on veut viser, mais qu'elle peut aussi agir en dehors de la cible, à d'autres endroits de la molécule d'ADN. Et l'interrogation que l'on a, c'est de savoir si il y a des effets hors cible qui se manifestent selon telle ou telle condition d'utilisation de la technique. Alors, il y a un certain nombre de travaux qui sont faits là-dessus, qui sont montrés que cet inconvénient est relatif, mais dans une perspective d'application humaine, que ce soit en thérapie génique somatique, dont parlait Alain, ou d'autres applications, c'est vrai que ces effets hors cible, il faut quand même s'assurer qu'ils ne sont pas toxiques ou nocifs pour pouvoir envisager l'utilisation de la technique.
France Culture, Science Publique, Michel Albergonti.
Nous débattons aujourd'hui la question, je n'arrive pas à arrêter nous aux invités, mais je vais leur donner tout de suite la parole. Nous débattons aujourd'hui la question bricoler l'ADN à loisir, révolution génétique ou cauchemar éthique avec Alain Fischer, qui est médecin et entre autres titulaire de la chaire de médecine expérimentale au Collège de France, Pierre Joinet, biologiste de la reproduction et membre du comité d'éthique de l'INSERM, et Jean-Christophe Pagès, président du comité scientifique du Haut Conseil des biotechnologies. Nous sommes également avec Caroline Tourbe, chef du service médecine du magazine Science et Vie, notre partenaire pour cette émission. Jean-Christophe Pagès brûlait d'intervenir, je lui laisse la parole.
Non, les effets hors cible sont une question majeure.
L'effet du copier-coller se...
Du couper, en fait, se produit ailleurs qu'à l'endroit où on avait visé. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des améliorations qui sont constantes, qui vont très très vite. Et là, il y a 2 publications successives, une dans Science, une dans Nature, hier, pour lesquelles, sur un assez grand nombre de gènes, il y a 0 effet off-target.
Indétectable.
Ouais. Oui, 0 effet hors cible. Donc, excusez-moi, on parle tout de suite.
L'anglais reprend tout de suite l'avantage.
Voilà, donc ça c'est quelque chose de relativement important. Et c'est vrai qu'en fonction des applications, ces effets hors cible, on peut plus ou moins les maîtriser. C'est-à-dire qu'en biologie végétale, si vous cultivez la cellule et que vous isolez quelques cellules pour les séquencer, vous allez pouvoir les détecter puis écarter celles qui ont des effets hors cible et conserver celles qui ne les ont pas. En biologie humaine, pour la thérapeutique, c'est un peu plus complexe.
Alors, pour donner un exemple justement de ce qui bouge en ce moment, très récemment, il y a quelques jours, une publication a fait état du traitement de la dystrophie musculaire, de Duchenne, Alain Fischer, qui serait soignable en partie, en tout cas.
La publication, c'est chez la souris, pour l'instant.
Il faut le préciser, c'est pas chez mais qui est une maladie qui existe aussi chez l'homme.
Oui. On peut commander. Juste avant, si je peux me permettre d'ajouter un mot en continuité de l'intervention de Franck Pagès, et prendre l'image de ma génération, quand on était enfant, on utilisait des mécanos pour faire des constructions diverses. Et il y a 3 ans, on avait la boîte de mécanos numéro 1. Pour ceux de ma génération, on se souvient qu'il y avait 10 boîtes. Numéro 10, c'était hyper compliqué, on faisait des choses beaucoup plus savantes. Mais ce qui est incroyable, c'est que ça avance à toute vitesse, les publications d'hier. Donc je ne sais pas à quel numéro de boîte on est, mais on n'est déjà pas à numéro 1, mais on n'est pas encore à numéro 10. On est entre quelque part 5, 6, 7. Et que dans 3 mois, ça sera 8. et que il y a tellement de laboratoires qui travaillent sur ce sujet, le système est suffisamment malléable, que les progrès sont considérables, et que là, on avait, disons initialement, un outil. On est en train d'avoir une boîte d'outils, avec d'ailleurs d'autres enzymes. Il n'y a pas que Cas9, il y a d'autres enzymes d'origine bactérienne qui font le même job un peu différemment. Donc on va avoir une boîte à outils extraordinaire, au moins pour la recherche, peut-être espérons pour la médecine. Quand j'en reviens aux myopathies.
Oui.
Donc ce qui a été fait, c'est dans 3 modèles mais assez voisins de myopathie chez la souris, en sachant que ce ne sont pas des modèles qui sont tout à fait pertinents pour la maladie humaine, mais c'est quand même intéressant. Ils ont, en utilisant l'enzyme Cas9, donc couplé à un CRISPR adapté, ils ont coupé un exon. Un exon, c'est une petite partie d'un gène qui code pour un morceau de l'ARN. L'exon qui contient la mutation. Donc la résultante de cette intervention, c'est d'enlever l'exon muté, et donc le produit final, ça s'appelle la dystrophine, c'est le nom de la protéine, comporte quelques acides aminés en moins, donc elle n'est pas parfaite, mais elle est suffisamment bonne pour fonctionner. Et ça, ils ont montré que la faisabilité de faire cette correction dans un système de modèle animal murin fonctionne. 3 papiers de 3 équipes différentes. Donc c'est une étape probante, mais encore de ce point-là à l'application humaine, il y a un peu de temps, avec un certain nombre de points, peut-être tu peux commenter si tu veux.
Jean-Christophe Pagès. Oui,
juste pour compléter, parce que la pertinence humaine pour ce modèle de la dystrophine, elle est excellente. Il y a un essai qui va débuter cette année, probablement, avec pour la dystrophie musculaire de Duchenne, avec une approche qui est similaire. La seule chose, c'est qu'au lieu de réaliser la coupure au niveau de l'ADN, elle est réalisée au niveau de l'ARN. Et on va faire des dystrophines plus courtes, mais qui sont fonctionnelles. Et il y a des modèles de chiens sur lesquels on a montré que ça fonctionnait. C'est l'équipe de Philippe Moulier à Nantes. C'est d'une efficacité extraordinaire. On change de molécule cible, mais le principe reste le même. Et l'application à l'homme pour ces maladies reste possible. Et il y a un très très grand nombre de patients qui seraient éligibles.
Alors ça, Caroline Tourpe, c'est l'un des grands objectifs de cette technique, qui est de corriger le patrimoine génétique. Oui. Et donc on peut dire, on peut en dire un mot sur le potentiel de cette approche-là de CRISPR-Cas9.
On est toujours sur l'espèce humaine ou pas ?
Alors on est à la fois, on n'y est pas encore. En fait, on n'est pas encore arrivé.
Non, on
n'y
est pas encore. Non, mais je veux dire, c'est parce que
dans la discussion non plus. En fait, on est plutôt encore dans les modèles
animaux. Comme l'a très bien dit.
Mais avec la perspective.
Oui, c'est ça. C'est ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement c'est en fondamental hein, et que le reste c'est des promesses, bonnes ou mauvaises, qui font peur ou qui font rêver, mais voilà, le reste ce sont des promesses. Et pour ce qui est de l'espèce humaine, oui, on imagine qu'on pourrait, étant donné la facilité d'utilisation de l'outil et la façon dont il est en train de se perfectionner, cet outil, puis d'autres qui seront ses cousins plus ou moins proches, on pourra peut-être améliorer ou modifier, en tout cas certains chercheurs souhaitent aller modifier un peu à façon l'ADN d'individus adultes, ou voire même lors du développement très en amont, donc au moment du développement fœtal des humains.
Voilà. Alors là, voilà, dit comme ça, ça paraît tout à fait banal. En fait, c'est pas du tout banal d'aller intervenir au niveau du développement fœtal des êtres humains. Et au niveau de la modification du patrimoine génétique non plus, c'est pas tout à fait bénin.
Non, ça serait modifier sa descendance.
Ça modifierait la descendance, mais où la question se posera très vite de savoir si on s'arrête à la correction de défauts ou à l'amélioration. Vous l'évoquez dans votre dossier.
Oui.
On peut imaginer améliorer certaines caractéristiques du génome pour, je ne sais pas, avoir des muscles plus puissants.
Il y a un chercheur qui s'appelle George Church, voilà, qui travaille et qui est connu, qui est bien connu parce qu'il est charismatique et puis qu'il est à la fois sérieux et en même temps très provocateur, c'est le terme exact, voilà, provocateur, il est à Harvard, et lui, il a la ferme intention de travailler sur des pistes pour améliorer l'espèce humaine. Il cible quelques gènes qui sont des gènes qu'on connaît en ayant travaillé sur des maladies la plupart du temps, mais il se dit que peut-être qu'on pourrait, un exemple que lui donne, c'est permettre au cœur de personnes qui ne seraient pas malades d'avoir une force de contraction des battements de cœur plus puissants, ou de fournir à quelqu'un qui a un cœur fonctionnel un cœur encore plus puissant, qui est une sorte de dopage génétique de l'espèce humaine. Bon, lui, il imagine que ce serait possible. Et est-ce qu'il le souhaite ? Je crois qu'il le souhaite, lui, oui, voilà. Bon, après, ça ouvre évidemment un débat Un large débat éthique. Et sur la faisabilité, hein, on en est, encore une fois, on n'en est pas là, mais ça ouvre des perspectives.
Voilà. Pierre Joannet, sur cette perspective, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît déjà... la première question, c'est est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est potentiellement réalisable, à la fois sur le plan thérapeutique, mais sur le plan de l'amélioration de génome existant qui ne serait pas forcément malade?
Si vous voulez que je dise tout ce que je pense à la matière, il me faudrait 3 heures.
Alors, il va falloir faire un petit résumé.
Non, si vous voulez, ce qui est quand même frappant, c'est que quand on discute de ce genre de technique, comme on discute pas mal depuis un certain nombre de mois, tout de suite, on met en avant des applications potentielles de l'homme augmenté, du bébé sur commande, etc., comme si c'était l'aspiration à la fois des chercheurs, des médecins et des gens. Moi, je crois que la réalité, elle n'est pas tout à fait celle-là. Que les personnes qui sont confrontées à des questions de maladies génétiques ou à des problèmes de régulation génétique des fonctions du vivant, c'est pas forcément à ça qu'ils pensent en premier. Alors, pour le reste, imaginons que tout soit au point, etc. Bien sûr, il y a des choses qui seraient possibles. Alors, pour revenir à George Church, lui, il dit qu'il y a sur la molécule d'ADN ce qu'on appelle des variants, c'est-à-dire des petites modifications des structures des gènes, qui pourraient avoir un rôle protecteur pour certains types de pathologies, comme vous évoquiez, des maladies cardiovasculaires ou d'autres pathologies. On a évoqué aussi une possibilité de se protéger contre le VIH en rendant les récepteurs imperméables, je dirais, à l'attaque du virus. Bon, c'est ce type d'approche qui est d'essayer de protéger et que défend beaucoup George Church. On peut l'entendre, mais en même temps, c'est pas très réaliste. C'est pas très réaliste parce que souvent, ces pathologies, comme les pathologies cardiovasculaires, elles sont ce qu'on appelle multifactorielles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un gène qui est responsable de la maladie, mais qu'il y a un ensemble de gènes, et puis beaucoup d'autres facteurs qui peuvent intervenir, du type de l'environnement, etc., etc., pour provoquer des maladies cardiovasculaires. Donc, faut pas croire que parce qu'on va agir sur un endroit à la molécule d'ADN, automatiquement, on va arrêter tous les problèmes. Alors, il y a d'autres types. Et puis, je ne vais pas être trop long, mais il y a d'autres types d'interventions qui, elles, alors, sont directement possibles pour modifier les individus. Et je vais prendre un exemple qui est celui du gène de la myostatine. La myostatine, c'est une protéine qui inhibe la croissance musculaire et le développement musculaire. Et donc, si on invalide ce gène, on va obtenir des individus plus musclés. Plus grand, plus fort, etc. Et donc, ça peut avoir un intérêt pour certaines personnes. Et, par exemple, la question de la myostatine est très débattue chez les sportifs et chez les personnes qui s'occupent de sport. Et effectivement, il y a des chercheurs qui ont invalidé par CRISPR-Cas9 le gène de la myostatine dans des embryons d'animaux, pas humains, je vous rassure, mais moins d'animaux, et notamment des embryons de moutons. Et c'est d'ailleurs une équipe française qui est à Nantes qui a obtenu ce résultat avec une équipe uruguayenne. Et donc, ils ont invalidé la myostatine sur des embryons de moutons. Ils ont replacé les embryons dans des brebis, ça a donné des petits. Et il y a des petits qui, effectivement, avaient un gène de la myostatine qui était non fonctionnel. Et ces petits agneaux étaient plus gros que les autres. Donc, ils ont démontré que simplement en invalidant un gène, on pouvait modifier ce qu'on appelle le phénotype, c'est-à-dire les caractéristiques d'un individu.
Et avoir un super mouton.
Voilà, un mouton.
Voilà, c'est un exemple, mais encore une fois, c'est pas à l'ordre du jour pour l'être humain.
Non.
on en reparlera peut-être, Jean-Christophe Pagès.
Voilà, je vais compléter cet exemple de la myostatine qui est vraiment très très intéressant parce que, en fait, la mutation naturelle de la myostatine elle existe. Ah. Chez les bovins, c'est ce qu'on appelle les culards. Oui, et justement, je voulais dire, il y a un cas décrit, un Allemand, d'une personne qui avait une mutation de la myostatine, mais on ne sait pas ce qu'il devient, parce que quand le patient a été décrit, que la mutation a été observée et caractérisée, les parents ont refusé que l'enfant soit suivi. Donc on ne sait pas ce que cet enfant devient. C'était il y a une dizaine d'années, il doit être, un jeune adulte actuellement, et on ne sait pas ce qu'il devient. Mais c'est vrai qu'en amélioration des espèces animales, donc obtenir des culards dans diverses espèces ou de diverses races de vaches à viande, c'est un objectif. Actuellement, il est en cours d'obtention par croisement avec des bovins qui ont cette mutation de la myostatine.
Alors peut-être une précision, Alain Fischer, quand on parle de remplacer un morceau d'ADN ou d'inhiber un gène, etc., comment cela se fait-il pour... Comment fait-on pour répartir cette mutation sur l'ensemble des cellules d'un être humain, ou d'un être vivant pour être plus précis, puisqu'on n'en est pas encore arrivé tout à fait à l'homme? Comment cette généralisation peut-elle se faire, à moins d'agir directement sur l'embryon, comme on l'a imaginé tout à l'heure? Est-ce que c'est la seule solution?
Vous posez la question en termes généraux, quel que soit le type d'utilisation.
Absolument.
Il y a schématiquement deux façons de faire. Enfin, a priori, pour l'instant, la plus simple, ce serait de traiter les cellules ex vivo, c'est-à-dire prélever les cellules du patient, les modifier avec, en injectant le matériel génétique adéquat, soit de forme d'ADN ou d'ARN, etc., permettant d'avoir le système CRISPR-Cas9, plus ou moins une séquence supplémentaire pour faire les modifications génétiques, et ensuite de réinjecter ces cellules au malade. Si on fait ça, seules les cellules filles des cellules qui auront été traitées seront modifiées, et pas d'autres. C'est typiquement une application de thérapie génique somatique qui pose pas de problème éthique particulier, si ce n'est la rigueur du protocole thérapeutique, et qui peut être envisagée. On peut éventuellement l'envisager par traitement in vivo, c'est un peu plus compliqué, mais enfin, et de cibler un certain nombre de cellules.
Mais dans ce cas-là, est-ce que l'organisme tout entier finit par être affecté?
Non, parce que à moins d'y mettre des quantités absolument faramineuses de matériel, ça sera qu'une petite fraction des cellules qui seront ciblées. Ça se fait déjà en thérapie génique somatique. Un exemple, on traite avec un certain succès l'hémophilie B, donc un défaut de la coagulation sanguine, en injectant par voie veineuse un virus qui s'appelle un AAV, qui contient le gène du facteur 9 de l'hémophilie, et certaines cellules du foie sont infectées, et ensuite les cellules du foie produisent le facteur de la coagulation. Donc c'est quelque chose qu'on peut envisager aussi, avec un centre de questions non résolues sur le plan scientifique et technique, pour les applications de ce type.
Vous parliez d'une deuxième approche?
Non, soit in vivo, oui c'est ça, voilà. In vivo, c'est à l'instant ce que je viens d'évoquer, ou ex vivo, si on a des cellules modifiées au laboratoire et réinjecté au patient.
Dans les deux cas, il est difficile de changer toutes les cellules d'un individu.
Encore une fois, en thérapie génique somatique, on ne veut pas modifier toutes les cellules d'un individu, on veut modifier les cellules malades. Si c'est une maladie du sang, les cellules de la moelle osseuse, si c'est une maladie du foie, les cellules du foie, et ainsi de suite. L'autre aspect, c'est dans le contexte de ce qui a été discuté juste avant, des modifications du patrimoine génétique en essayant de s'attaquer, on peut même dire ça comme ça, oui, sans guillemets, aux embryons, ou éventuellement, c'est pas si évident que ça, mais enfin, en théorie, on pourrait arriver à un stade très précoce à pouvoir traiter un nombre, en tous les cas, important de cellules de l'embryon et avoir une expression assez large. Enfin, c'est pas un problème qui est complètement résolu, loin de là. Mais en théorie, ça serait envisageable. Après, on revient aux discussions sur l'intérêt de ce type d'application sur l'homme augmenté ou se réparer à ce stade-là des maladies génétiques. Je ne suis pas favorable à titre personnel, ni dans un cas, ni dans l'autre. Mais en théorie, on peut le concevoir.
Mais c'est interdit.
Oui, on peut dire que c'est formellement interdit en France aujourd'hui et dans la plupart des pays du monde.
Pierre Joannet?
En dehors de ce qui est interdit ou de ce qui est discutable, effectivement, je suis d'accord que c'est discutable. Mais pour répondre à votre question, si on veut agir sur la totalité des cellules d'un individu, je dirais que la manière la plus simple, c'est de faire agir CRISPR-Cas9 ou un autre système au bon moment pour que toutes les cellules soient atteintes. Et le bon moment, c'est lequel? C'est quand l'individu, c'est une seule cellule, c'est-à-dire l'embryon juste après la fécondation, qu'on appelle le stade zygote, c'est-à-dire c'est la première cellule embryonnaire. Et si on réussit à faire la modification à ce stade-là, on peut imaginer que l'ensemble des cellules qui vont dériver de cette première cellule embryonnaire seront modifiées. Alors ça a été fait dans à peu près une dizaine d'espèces. Donc c'est depuis deux ans, ça s'est assez répandu. Et on l'a fait sur des embryons donc à ce stade-là. Et après, on a obtenu la naissance de petits. Mais ce qui est frappant, c'est que tous les petits qu'on a traités au stade embryonnaire n'ont pas la modification génomique. C'est-à-dire que l'efficacité n'est pas très bonne. Et seule une minorité des individus sont modifiés.
Là, vous parlez de quel organisme?
Ah bah ça a été fait chez la souris, chez le rat, chez le chien, chez la chez le mouton, chez la chèvre.
Ça dépend des espèces. Plein d'espèces. L'efficacité dépend des espèces.
Caroline Tourne.
Alors ça c'est faut bien voir que c'est pas si simple que ça parce que en fait le système moléculaire avec l'enzyme n'agit pas forcément immédiatement. Ça peut agir plus tard dans le développement embryonnaire, et à ce moment-là, il se produit ce qu'on appelle des mosaïques, c'est-à-dire que certaines cellules sont modifiées, d'autres ne le sont pas, et que l'individu n'est pas modifié dans son ensemble, qui était ce que vous souhaitiez au départ.
Non, c'était ma question. Tout à fait la même chose.
Donc, alors maintenant, il y a une autre possibilité. Il y a une possibilité, toujours dans la théorie, là, mais qui se situe avant la fécondation. C'est-à-dire qu'on va essayer de modifier, non pas l'embryon, mais on va essayer de modifier la cellule sexuelle, le gamète, qui va produire l'individu. Et ça a été fait aussi chez la souris et chez le rat, c'est-à-dire qu'on a pris des cellules germinales souches dans les testicules de souris et de rat, qu'on a modifié ex vivo, c'est-à-dire au laboratoire, puis après on a retransféré des cellules dans les testicules, et on a obtenu des naissances de petits dont une partie du patrimoine génétique a été modifiée. Et là on a le même résultat, c'est-à-dire que ça marche pas à tous les coups, et que donc aujourd'hui... Imaginez qu'on puisse modifier le génome de toutes les cellules individus, ça me semble encore une utopie, personnellement.
Caroline Tourme.
Mais il y a une publication qui a défrayé la chronique l'année dernière par une équipe chinoise qui donc s'est lancée, elle, sur l'embryon humain, avec une technique donc CRISPR-Cas9 appliquée à l'embryon humain et au stade... très préliminaire, une seule cellule, je crois que c'est ça, c'est à ce moment-là, juste après la fécondation.
Voilà, 71 embryons ont été traités, ont survécu plutôt au traitement. Enfin, sur 86.
On parle d'embryons hein, quand même, il n'y a pas eu de réimplantation, il n'y a pas de naissance, on est sur de la cellule,
bien sûr. D'accord.
Et donc, là, sur l'efficacité, alors c'était des embryons surnuméraires, on ne sait pas s'ils étaient tous aussi, en gros, forts. Là,
ils n'étaient pas viables, en fait.
Ils n'étaient pas viables, ce n'était pas quelque chose qui était...
C'était des embryons triploïdes, des embryons anormaux, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir deux pronoyaux, ils en avaient trois. Donc ils avaient un contenu en ADN totalement anormal. Et ça, c'est une des limites de l'expérience qui a été faite par cette équipe chinoise, c'est qu'ils se sont placés dans une situation qui n'est pas du tout la situation physiologique, qui est une situation totalement anormale. Mais c'est quand même un modèle expérimental. Les Chinois n'avaient pas du tout l'intention de développer la technique pour modifier des embryons. Ils voulaient tester la possibilité d'utiliser ce système sur des embryons humains. Et ils ont choisi volontairement des embryons totalement anormaux, qui sont des embryons triploïdes. Et c'est vrai que là...
Il y a une toute petite fraction des embryons traités.
L'expérience qui a été faite, mais elle a montré quand même qu'à la fois, c'était pas très efficace, et puis qu'il y avait là aussi des effets horribles quand même, qui s'étaient manifestés.
C'était les premières générations de CRISPR-Cas9. Oui, pardon, c'était les premières générations de CRISPR-Cas9. Ce qu'il faut quand même dire à nos auditeurs à propos des modifications germinales, qui seraient donc héritables, c'est qu'actuellement, elles sont strictement interdites partout dans le monde. Il y a le protocole d'Oviedo qui n'a pas été signé par ni même ratifié par tous les États membres et même d'assez grands États, mais qui dans les faits est appliqué.
Chine ?
Oui, même en Chine, il est pas ratifié ni signé, mais les États-Unis non plus, l'Australie non plus.
C'est ce que vous appelez donc général, l'accord général de la planète entière autour de cet accord.
En pratique, c'est appliqué. Et l'Académie des sciences américaine s'est exprimée pour maintenir cette interdiction récemment. Donc il faut être très vigilant. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'application ou d'intention d'application chez l'homme.
Enfin, là, il y avait un débat quand même sur ces travaux chinois qui ont été refusés par Nature, je crois. Enfin, la publication n'a pas été facile du résultat de ces... Alain Fischer voulait intervenir.
Oui, je pense que ça ouvre, cela dit, une question intéressante. Il faut bien serrer les applications possibles en termes de recherche ou de modifications humaines. On a débattu d'une part les limites, mais aussi peut-être, certainement les points éthiques qui font qu'il n'est pas justifié de modifier des embryons dans un but d'implantation de ces embryons et de donner naissance à des enfants, que ce soit dans un but de correction de maladies génétiques ou a fortiori dans un but d'amélioration des performances biologiques, muscles, cœur, cerveau, tout ce qu'on veut, enfin, en sachant d'ailleurs qu'il y a quand même aussi beaucoup de naïveté dans l'idée de croire qu'en modification d'un gène, on va changer beaucoup de choses. Et je pense que parfois certaines personnes sont très très naïves dans ces expressions. Mais au-delà de cela, l'expérience chinoise ouvre une question intéressante et importante sur le plan scientifique et éthique. C'est, est-ce qu'on peut concevoir ou non l'idée d'utiliser cette technique qui va s'améliorer, donc avec des résultats qui seront supérieurs à ce qui a été obtenu par l'équipe chinoise, pour modifier à un stade précoce un embryon humain et d'en regarder les conséquences sur un nombre limité de jours, et donc autrement dit d'étudier grâce à cette technique les étapes précoces du développement de l'embryon humain, voire d'embryon pathologique, sans aucun projet de naissance. Autrement dit, est-ce qu'il est licite ou pas ? Aujourd'hui, non. Mais d'appliquer cette technique pour améliorer les connaissances sur l'embryogenèse humaine dans ses étapes précoces. Je pense que la question se pose, c'est complètement différent naturellement, j'espère que je le suis assez clair, de la situation où cet embryon ensuite serait réimplanté. On ne le réimplante pas, il n'y a pas de projet de naissance.
Quel est l'objectif alors ? Juste
l'objectif, c'est la connaissance, faire progresser les connaissances sur la physiologie et éventuellement sur des aspects pathologiques. Si on utilise des embryons qui ont été dépistés par des études génétiques, ça se fait dans le cadre de ce qu'on appelle le diagnostic préimplantatoire comme étant porteur de mutations, et d'observer ou de modifier dans les phases précoces, en l'occurrence modifier, le tel ou tel gène de cet embryon, et éventuellement même chercher un but thérapeutique, mais simplement au laboratoire, sans application thérapeutique chez l'enfant, cette approche. Je pense que ça, c'est une vraie question, à titre personnel, à condition qu'on encadre très sérieusement ces recherches, j'y serais plutôt favorable.
France Culture, Sciences Publiques, Michel Albert-Gonti.
Bricoler l'ADN à loisir, révolution génétique ou cauchemar éthique, c'est le sujet de notre émission aujourd'hui avec nos invités. Alain Fischer, médecin et titulaire de la chaire de médecine expérimentale au Collège de France. Pierre Joannet, biologiste de la reproduction et professeur émérite à l'Université Paris-Descartes, membre du comité d'éthique de l'INSERM. Jean-Christophe Pagès, praticien hospitalier à la faculté de médecine à l'Université François Rabelais de Tours, président du comité scientifique du Haut Conseil des biotechnologies, et Caroline Tourbe, chef du service médecine du magazine Science et Vie. Je voudrais terminer cette émission justement sur cet aspect éthique. Vous avez essayé de tracer une ligne, une espèce de ligne à ne pas dépasser, mais qui en même temps permettrait à la recherche d'avancer, aux connaissances de se développer dans ce domaine. Quel est votre avis, Pierre Joannet ?
Alors, deux choses. D'abord, Jean Bernard avait coutume de dire, quand il présidait le Comité national d'éthique au début des années 80, que tout ce qui n'est pas scientifique n'est pas éthique. Et aujourd'hui, il n'y a aucune raison scientifique, ou je dirais aucune condition scientifique qui permette d'envisager de créer des embryons modifiés dans l'espèce humaine. Et donc, indépendamment de toute considération éthique, il n'y a pas de raison de le faire. Il n'y a pas de pertinence scientifique, si vous voulez.
Pourtant, les Chinois l'ont fait.
Ils ont essayé. C'est le deuxième point, oui. Si vous voulez. C'est qu'il faut éviter de confondre tout le temps ce qui est l'application clinique ou l'application médicale d'un outil, en l'occurrence moléculaire, et la recherche. Et d'ailleurs, pour reprendre la loi française ou la convention d'Oviedo, elles n'interdisent pas la recherche, elles interdisent l'application clinique. C'est-à-dire que la loi française dit textuellement qu'il est interdit d'agir sur le génome pour modifier la composition génétique de la descendance. C'est-à-dire quand il y a pour but de modifier le génome des enfants qui vont naître. En revanche, et la Convention de Viollet dit la même chose, en revanche, faire de la recherche sur l'embryon, c'est tout à fait légitime. Comme l'a dit Alain Fischer, pour comprendre les mécanismes du développement normal, du développement anormal, comment les gènes s'activent dans cette première phase du développement embryonnaire, comment les cellules vont se différencier, comment ça se passe, il y a plein de choses à faire.
Alors, ça veut dire
cette recherche est nécessaire. Et donc, quand on discute d'éthique, il faut savoir de quoi on parle. Hein, si c'est l'éthique de l'application ou l'éthique de la recherche. Et en l'occurrence, autant les choses sont claires en matière d'application, il n'y en a pas de possible. Et donc, je dirais que...
Et sérieusement, vous pensez que le jour où on aura percé les mystères de ces mécanismes, où on aura acquis la connaissance dont parle Alain Fischer, eh bien, on va s'arrêter, les chercheurs vont s'arrêter, ne passeront pas au stade de l'application.
Mais c'est plus compliqué que ça. Souvenez-vous des débats qu'il y a eu il y a une vingtaine d'années à propos du clonage, où tout le monde disait, mais on a cloné deux lits, et puis on a cloné des vaches, et puis on a cloné des chiens, et puis est-ce qu'on va s'arrêter là, et on va cloner des humains? Et il y aura bien des gens qui vont cloner des humains. Et puis, il y a même des gens qui ont déclaré qu'ils allaient le faire, hein, contre toute évidence.
Qui ont déclaré qu'ils l'avaient fait.
Et ça s'est jamais fait. Ça s'est jamais fait parce que c'était pas possible et parce qu'effectivement.
Mais quelque chose, dans la mesure où c'est pas possible, si vous voulez, c'est une forme de garantie assez, assez forte que les choses ne se feront pas. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer le jour où ça sera possible.
Bah écoutez, il faudra en reparler quand on aura un petit peu avancé. Mais comme je disais tout à l'heure, si vous voulez, excusez-moi de prendre encore un peu la parole.
Je vous en prie.
Quand on est en thérapie germinale, c'est-à-dire qu'on essaye de modifier un embryon, quelle qu'en soit la finalité pour obtenir un enfant modifié, on n'est pas dans la même situation que celle de la thérapie génique somatique, où on cherche à modifier des cellules ex vivo ou in vivo et qui vont traiter, qui vont guérir un organe malade. On n'est pas du tout dans le même domaine. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on fait l'injection CRISPR-Cas9 sur des embryons tels d'une cellule, on n'obtient pas toujours un résultat tel qu'on souhaiterait. Alors, on peut le faire quand on fait sur des modèles expérimentaux d'animaux, parce qu'on peut trier les animaux selon qu'ils sont modifiés, pas modifiés, les utiliser. On peut sûrement pas le faire quand il s'agit d'êtres humains. On va pas se mettre à trier des individus en fonction de leur capital génétique à la naissance.
Ça, jamais. Jean-Christophe Vagelès.
Donc, je voulais compléter ce que disait notamment Alain. On ne sait pas notamment ce qu'est l'intelligence. Hein, c'est une maladie multifactorielle, l'intelligence. Donc, avant d'avoir identifié...
Vous voulez la soigner, en fait, c'est ça?
Oui, voilà. Avant d'avoir identifié tous les gènes qui potentiellement rendraient intelligents, je crois qu'on en est très très loin. Et utiliser ce système pour ce type d'application, ça paraît relativement inenvisageable. Quelques traits, certaines personnes pourraient être tentées, mais il y a des encadrements, il y a des lois qui peuvent prévenir ce genre de volonté.
Alors Caroline Tour, vous citez d'autres applications tout aussi merveilleuses, créer de nouveaux animaux, produire des OGM sans ADN étranger, donc pas des ADN contestés comme certains le sont aujourd'hui, immuniser des animaux vecteurs de maladies, donc immuniser les moustiques, ce genre d'animaux
faire
peut-être.
Faire barrage aux maladies, oui, en empêchant les moustiques de transmettre sa maladie. On entend parler du Zika, c'est le virus Zika ces derniers temps, la dengue.
Ressusciter les animaux disparus.
Ouais, ça c'est Church, hein, c'est George Church dont je vous ai parlé, qui est provocateur.
Et sauver les espèces en danger, donc forcément, c'est encore plus facile.
Que de
ressusciter celles qui ont déjà disparu. Une réaction parmi vous sur ces perspectives, Alain Fischer?
Je pense qu'il y en a, enfin, comme toujours, il faut faire le tri et encore plus faire le tri faire attention entre les potentialités et les réalités, mais je pense qu'on ne peut certainement pas négliger les potentialités d'application dans le domaine de l'agronomie. Alors, il y a le débat qui est en cours et je pense que il sera mieux placé que moi pour en parler sur le savoir s'il faut considérer ces plantes modifiées comme porteuses d'OGM ou pas. Il le laisse répondre, mais en tous les cas, c'est une approche, à mon avis, très intéressante. C'est pas évident de modifier des vecteurs qui apportent des maladies virales, les moustiques en particulier, parce qu'il y a des problèmes d'écologie. Mais enfin, c'est une recherche qui est probablement extrêmement intéressante et qui, si elle aboutit, serait tout à fait heureuse de pouvoir prévenir ou réduire au moins les infections apportées par les moustiques, de la dengue au paludisme. Quand même, le paludisme est une maladie majeure de l'espèce humaine. Imaginons qu'on arrive à modifier, c'est pas demain la veille, c'est une affaire très compliquée et délicate, mais de modifier l'écologie des moustiques de telle manière que la transmission du paludisme soit réduite, ça serait une avancée extraordinaire. Donc je pense qu'il ne faut pas fermer la porte à ces recherches, même s'il faut les regarder avec toute la prudence nécessaire.
Alors on pourrait en discuter beaucoup. Malheureusement, l'heure tourne. Pierre Joannet, vous appelez quand même, semble-t-il, dans la presse, à un débat public sur ces questions-là. Donc, et là, cet après-midi, vous avez l'air de nous dire que finalement tout ça est sous contrôle.
Enfin, c'est pas moi qui appelle. Vous voyez, là, ce soir, on est entre experts, hein, et on discute entre experts, et les questions qu'on évoque n'intéressent pas que les experts, ça intéresse beaucoup de monde.
Mais c'est pour ça qu'on s'adresse à nos auditeurs, qui ne sont pas des experts.
À ce que recommandait l'Académie américaine, là, puisque l'Académie des sciences, l'Académie de médecine aux États-Unis ont organisé une réunion au mois de décembre sur ce sujet, Ça a été une des principales conclusions de cette réunion. Bon, une conclusion était qu'il ne fallait pas limiter la recherche. Une deuxième conclusion était qu'il ne faut pas faire des applications cliniques qui ne sont pas pertinentes, etc. Mais une troisième conclusion, c'était qu'il faut alimenter le débat et il faut ouvrir le débat. C'est-à-dire qu'il faut, et l'Académie américaine a proposé d'organiser des forums avec des scientifiques, des médecins, des non-scientifiques, des hommes politiques, des journalistes pour vraiment qu'il y ait un débat dans la société.
Voilà. Et bien, de toute façon, nous avons donc appliqué les recommandations de l'Académie des sciences américaines. Aujourd'hui, le débat de Sciences Publiques s'achève. Merci à Alain Fischer, Pierre Joannet, Jean-Christophe Pagès et Caroline Tourbe d'y avoir participé pour approfondir le sujet. Justement, il faut lire l'enquête d'Isa Abdoun, Émilie Rocher, Yves Siama et Caroline Tourbe, publiée dans le numéro de janvier du magazine Science et Vie, intitulé « Bricoleurs du vivant pour soigner, créer, optimiser ». Ils ont trouvé leur outil. Sur le site de Sciences Publiques, vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours et la podcaster pendant un an. Bien entendu, vous pouvez nous faire part de vos réactions, commentaires et témoignages. Vendredi 15 janvier, Sciences Publiques s'inscrira dans la semaine Bac Blanc que vous propose l'ensemble des émissions de Culture Science tout au long de la semaine prochaine. Nous aborderons la physique-chimie en nous interrogeant sur le niveau de l'enseignement du secondaire dans cette discipline, en particulier en physique, qui semble avoir du mal à trouver sa place entre une approche trop théorique qui rebute les élèves et un enseignement trop pratique qui néglige des bases mathématiques nécessaires. Nous en débattrons avec nos invités Bernard Julia, Vincent Parbel et Loïc Villain. Sciences Publiques, Dany Journeau, Jean Frédérix, Marie Dalquier, Michel Albergantin.